Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise.
Antoine Robitaille. Il décortique les grands discours pour nous faire comprendre les politiques.
Là-haut sur la colline.
C'est l'heure de joindre Nada Boumefta, qui est avocate en droit criminel. Bonjour.
Bonjour.
On abordera aujourd'hui le sujet des conséquences juridiques des comportements en ligne, là, tous ces trolls. Là. Puis cette semaine, il y avait un cas très particulier. Dany Arsenault, 42 ans, qui harcelait, semble-t-il, Charlotte Bouchard, qui est sœur de la joueuse de tennis Eugénie Bouchard. Je me demandais, Maître Boumefta, si vous vous trouviez dans la peau d'un procureur en poursuite, que feriez-vous?
C'est certain qu'avec des éléments, par exemple, dans le cas de Arsenault, où il a agi en commentant certes des publications qui sont publiques sur Facebook, mais en écrivant un message privé, en suivant Madame Bouchard, en allant même prendre des photos devant son travail, en faisant des commentaires sous des pseudonymes cachés, donc de façon anonyme, sans nécessairement avoir de photos, il est rentré, si on veut, dans la vie privée de Madame Bouchard en lui faisant peur, en l'harcelant, en appelant, en faisant des messages à répétition. Donc, tous ces éléments-là sont considérés quand on est en poursuite pour évaluer, par exemple, la possibilité d'accuser quelqu'un de harcèlement, de menace, si les propos sont de ce type-là et par écrit. On peut également poursuivre les gens pour partage de photos intimes. On l'a vu dans l'affaire des captures d'écran quand on est sur Zoom ou sur Teams. Ouais. Alors, ça va au-delà de ça. Dès qu'on est sur les réseaux sociaux, même si on est derrière un écran, toutes les traces que l'on laisse, la décision de piquer, c'est un peu l'analogie que je peux faire. On pique quelqu'un, pique. Ça devient du harcèlement. Ça peut en venir à des accusations criminelles et on peut faire face à des sentences quand même assez sérieuses en la matière.
Hein? Comme par exemple?
Tout à fait. Les sentences, écoute, peuvent varier. On peut avoir des absolutions qui peuvent être données pour des menaces. Et ça peut être réglé aussi par voie de 810, qu'on appelle un article qui impose des conditions aux gens pendant un an de ne pas communiquer, pas entrer en contact avec la victime dans le dossier, mais sans qu'il y ait de traces criminelles. Autrement, on peut se retrouver même dans des sentences de détention, donc faire de l'emprisonnement pour même plusieurs mois lorsqu'il s'agit là, d'une infraction dont la gravité peut être plus élevée. Par exemple, quand on menace quelqu'un ou dans l'affaire dont je peux faire mention qui a été rendue très tôt ce mois-ci, au mois de mai, par le juge Gaio Santos, où c'était un avocat de la défense qui s'est fait harceler par un client après l'avoir représenté. L'individu a quand même eu 14 mois d'emprisonnement.
Ah oui, c'est la cause que vous m'avez envoyée tout à l'heure, le R contre Vinet.
Exactement. Donc, dans cette affaire-là, dans Vinet, plusieurs appels répétitifs, des messages et même des propos haineux qui ont été tenus et considérés par le juge comme facteur aggravant là, pour imposer ce type de sentence-là. Donc, les gens, quand ils commentent et donnent leurs opinions là, en pensant que ça n'aura pas d'impact et que la liberté d'expression leur permet de tout faire, attention, il y a une limite et vous pouvez faire face à des accusations et ça peut devenir des facteurs qu'on considère comme étant aggravants.
C'est ça, les gens souvent oublient que c'est un espace public, qu'on n'est pas on a beau être dans notre sous-sol, on n'est plus dans notre sous-sol quand on s'exprime sur ces canaux-là.
Définitivement, et ce qui est important par contre de souligner, M. Robitaille, c'est que c'est pas parce qu'on ne publie pas sur le mur, pour pas utiliser le langage de Facebook, le mur Facebook, que ça devient public ou pas. L'aspect privé est plus ou moins important ici. C'est ce qu'Arsenault a tenté de plaider et de dire à la Cour que les commentaires qu'il laissait, c'est des commentaires que monsieur, madame, tout le monde peut lire, ça visait pas vraiment madame Bouchard, c'était général et public, et parce que c'était général et public, bon, ce n'est pas du harcèlement, ça ne s'est pas ciblé vers elle. Mais sachez que ce soit un message inbox, qu'on appelle dans le jargon, en privé, sur Facebook ou même publiquement, le message est passé quand même. Sachez que des gens peuvent être accusés au criminel pour un message vocal qui a été laissé ou un appel téléphonique qui a été enregistré. Donc,
ah oui.
Il suffit que de dire les mots, que le contexte dans lequel les mots, par exemple, de la menace qui ont été proférés peuvent être pris au sérieux, qu'effectivement, dans les circonstances de quoi porter des accusations, et qu'on est capable aussi d'identifier l'individu derrière l'écran. Je vous dirais, ça, c'est un des plus grands défis comme poursuivant,
oui,
de
ça.
Démontrer que la personne qui est derrière l'écran, c'était M. Arsenault dans le cas échéant. Lui, dans son cas, il s'est pris en photo. Donc, il a mis son visage sur les réseaux sociaux, et ça, les gens en sont peu conscients, mais les pages publiques, là, faites attention à ce que vous mentionnez, okay. Que ce soit dans le cadre de dossiers déjà devant la cour, donc que ce soit des dossiers de DPJ ou l'anonymat et tout ce qui est secret, finalement, de l'identité des enfants ne doit pas être mentionné, on ne doit pas mentionner ça sur les réseaux, et parfois, il y a des parents qui peuvent être en colère, qui veulent vouloir émettre des commentaires sur Facebook à ce niveau-là, ben, ils peuvent faire face à des accusations d'entrave. Alors ça, c'est autre chose aussi, d'autres accusations criminelles qui peuvent amener des gens à faire face à la justice pour des propos qui ont été tenus sur les réseaux, même si ça concerne leurs propres enfants. Alors ça, c'est le volet des PJ qui amène des conséquences criminelles, mais il y a aussi tous les propos qu'on peut tenir, que ce soit là, on a vu, il y a des groupes aussi, des cellules qui se créent, des gens qui peuvent être d'extrême droite, d'extrême gauche, de ci, de ça. Ce sont des commentaires aussi qui peuvent être considérés comme des éléments de preuve et menés à des accusations ou de harcèlement, de menaces. Comme je mentionnais tout à l'heure, tout ce qui est propos haineux.
Si vous étiez maintenant à la défense d'un tel personnage, vous profiteriez de quoi? Vous mettriez l'accent sur quoi?
Ben, il est évident là que dans ce type de dossier-là, la faiblesse est vraiment l'identification de l'individu derrière l'écran.
Oui.
Donc, c'est sûr et certain qu'à ce stade-là, quand je reçois ce type de dossier-là, j'ai un peu un travail d'enquête à refaire pour voir comment ils ont accédé, par exemple, à ces captures d'écran, qui les a pris, est-ce qu'il y a eu des modifications qui ont été faites, si effectivement c'est le document le plus pur, disons-le, là, que j'ai devant moi. Il n'y a pas eu de filtre, disons, ou d'ajout de bulles de conversation. Ou qu'est-ce qui me dit qu'effectivement, derrière l'écran, c'était Antoine Robitaille qui écrivait, qui nous disait à ce moment-là...
Hey, c'est pas mon genre, Nada, c'est pas mon genre.
Ah, ben c'est ça, là, je vous ai plus de rien. C'est bien qu'un exemple, mais sachez que...
Je suis plutôt la cible de troll, Nada.
Je suis plutôt la cible. Et en personnalité publique, je comprends que... Effectivement, parfois, on peut recevoir des commentaires qui peuvent être négatifs. Oui, les gens ont une liberté de s'exprimer, mais il y a quand même des limites. Et comme individu, effectivement, à un certain point, on peut craindre pour notre vie. Et c'est ce qui s'est passé dans le cas de Mme Bouchard. Elle s'est dit, coudonc, je savais même pas qui était cette personne-là. Et m'envoyait des messages du type, oublie pas de passer chercher une pinte de lait en sortant du travail. Ou des choses comme ça qui devenaient très... mon Dieu, elle avait
c'est
l'impression
étrange.
D'être
suivie. Oui, beaucoup de députés, beaucoup d'élus disent qu'il y a trop de trolls, justement, et en font même une raison pour cesser leur engagement politique. Même le premier ministre a dit qu'il va falloir trouver des moyens d'éliminer et même de sanctionner les gens qui font ces attaques-là. Est-ce qu'on poursuit assez devant les tribunaux ces personnages-là qu'on qualifie souvent de trolls?
En ce moment, la réalité, c'est sûr que depuis la pandémie, là, on est connecté plus que jamais.
Ouais.
C'est une évidence. La plupart des politiciens en témoignent aussi qu'en début de carrière, bon, ils ont voulu se lancer pour être proches des gens, pour garder cette proximité-là avec le citoyen via les réseaux. Ce qui est souligné, c'est que c'est très positif, mais ça vient avec le côté un peu plus sombre qui est tout cet aspect-là des trolls et des gens dont même, par exemple, Régis Labeaume a reçu des menaces textuelles. Et il a, je crois, si je me trompe pas, décidé de porter effectivement le plainte au niveau police. Est-ce qu'il y en a assez? Je pense que premièrement, les gens ne portent pas assez plainte. Peut-être que ça passe, on se dit qu'on prend les coups et qu'on n'a rien à dire, mais gardez en tête que vous avez des droits, vous pouvez aller porter plainte à la police avec des captures d'écran, avec des captures, des enregistrements aussi, vous avez le droit de le faire, enregistrer des conversations, garder ces éléments de preuve-là pour amener au poste de police et porter plainte. Maintenant, tout ce qui est question d'identité, normalement, ils sont capables aussi de retracer ou tenter de voir avec les listes, par exemple, registres d'appels téléphoniques ou les liens Internet.
Les adresses IP.
Exactement, les adresses IP, savoir d'où provient ce commentaire-là, d'où il sort. Et sachez, mesdames et messieurs, que c'est pas parce que vous décidez de déliter un compte Facebook, de disparaître de la map, qu'on ne vous retrouvera pas et que des accusations ne pourront pas être portées. Alors, je pense qu'il faut d'abord plus le dénoncer, de un, et en espérant que devant les tribunaux, ben effectivement, on puisse être entendu, que les gens, si ce n'est pas eux qui étaient derrière l'écran et qu'ils ont un moyen de défense à faire valoir, ben puissent le faire à ce moment-là. Mais il est évident là, qu'à ce stade-ci, du fait qu'il y a plus de gens sur les réseaux, tout le monde est connecté, on a vraiment cette sensation-là, et on le voit au niveau criminel, que les gens ne réalisent pas la gravité, finalement, des mots et le poids des mots qu'ils peuvent utiliser sur les réseaux et l'impact que cela peut avoir sur leur propre vie.
Oui.
Et les conséquences, entre autres, d'avoir un antécédent judiciaire suite à ça. Et il y a tout le volet civil aussi qui peut être engagé sur des accusations pour diffamation, si jamais on a porté atteinte à la réputation de quelqu'un ou si
on n'est pas sans outils. Je retiens qu'on n'est pas sans outils pour s'attaquer à ça. Merci
c'est
beaucoup.
C'est important. Et si il est frauduleux, ben, il faut l'attaquer. Puis on a une voix, il faut le faire. Alors voilà.
Merci beaucoup, Maître Boumefta.
Merci beaucoup.
Nada.
On se voit la semaine prochaine.
Nada Boumefta est avocate en droit criminel. On parle de politique du droit criminel à tous les jeudis.